Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
T'es grand, t'es très grand.
Jusqu'au bout là, c'est la dernière ligne droite. La ligne droite de ta vie, mon enfant.
Les grandes gueules du sport.
Allez mon grand, la ligne droite pour toi, pour ta famille, pour le cyclisme français, pour les Bretons, tu dois le faire.
Jean-Christophe Drouet.
Alors, ça aurait été parfait s'il n'y avait pas Jean-Christophe Drouet à la fin, que j'embrasse, hein, j'adore.
Ouais.
Ça, cette vidéo, on l'avait faite le jour des Jeux Olympiques. Marc commentait aux côtés d'Arnaud.
Ouais.
Et il y avait Cyril Guimard assis à côté. Et Cyril, il me regardait, mais il est devenu dingo l'autre là. Il est devenu dingo. Et il...
J'aime bien la fin pour les Bretons.
Pour les Bretons, ouais. Bah oui, c'est toujours important.
C'était Valentin Madouas qui était important.
Bien sûr, c'est jamais oublié. On est avec Marc Madio, on est avec Christophe Cessieu, avec Jérôme Coppel, avec Denis Charvet. Dans un instant, tiens Denis, le débat des GG à un jour de UBB Toulouse, demain en quart de finale de Champions Cup. Choc entre les deux stars actuelles du rugby français, selon vous. Biel Viaré, est-ce qu'il peut dépasser Antoine Dupont? On va en parler ensemble avec vos 32-16. Retrouvez la première heure des GG en podcast, déjà sur toutes les plateformes. On a parlé de Deschamps au Real notamment, on a parlé de tennis également. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez aujourd'hui votre enceinte portable minotée au design épuré de la marque française Lexon. Pour remporter votre enceinte Lexon, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, sur le ring, je sais que vous êtes très nombreux à attendre en ce moment parce qu'on a reçu plein de messages. Paul Seixas devrait remporter le Tour du Pays Basque aujourd'hui et mettre fin à des années d'attente.
RMC, le ring des GG.
C'est qui le patron ?
Paul Seixas qui va franchir cette ligne, la ligne d'arrivée de cette deuxième étape. Le sourire aux lèvres, évidemment qu'il lève le bras vers le ciel et qui n'en revient pas. Paul Seixas victorieux sur cette deuxième étape après la première étape hier. Il a encore une fois écrasé ses adversaires.
C'est moi le patron !
Paul Seixas ou Florian Nipovic. Et c'est Paul Seixas qui va s'imposer. Troisième victoire de la semaine pour Paul Seixas. Le maillot jaune bien accroché sur ses épaules à la veille donc de cette dernière étape.
C'est moi le patron !
Cela fait 19 ans, presque deux décennies qu'un coureur français n'a pas remporté une course à étapes en World Tour, la catégorie élite du cyclisme mondial. Le dernier, c'était Christophe Moreau sur le Dauphiné en 2007. 19 ans, c'est l'âge de Paul Seixas en passe de mettre fin à cette longue période de disette. Sauf accident, il devrait remporter aujourd'hui le Tour du Pays Basque qu'il a écrasé comme un Pogacar avec trois victoires d'étapes, dont une dernière hier. Poggi, justement, il le retrouva sur Liège-Bastogne-Liège dans deux semaines et peut-être pour la première fois sur le Tour cet été. Sa participation à la Grande Boucle n'est pas encore tranchée, lui qui n'a jamais participé à une course de 3 semaines. Les GG, je vous pose cette question. S'il fait le Tour, Seixas doit-il déjà viser le podium? J'ai 3 oui. Denis, Christophe et Marc, j'ai 1 non. Jérôme, pour l'instant sur le compte X des GG, vous dites oui à 61%. Donc vous avez envie qu'il vise déjà un podium. On va développer dans un instant, évidemment, pour comprendre vos arguments. Kevin Morand est l'envoyé spécial de RMC. On l'a envoyé là-bas en plein milieu de la semaine parce que ça devenait chaud, au plus près de Paul Seixas au Pays Basque. Salut Kevin.
Salut Georges, salut les GG.
Salut. Bon, t'es dans l'épicentre de l'enflammade, de l'incendie français. Sur place, la semaine du français a sidéré un peu tout le monde, raconte-nous.
Oui, ici au Pays Basque, on dit Opa, vous savez, pour encourager, mais cette semaine c'était plutôt Opol, le mot clé. Le français était déjà connu des amateurs de cyclisme de ce côté des Pyrénées, surtout depuis le Dauphiné l'an dernier, mais là il a scotché les spectateurs au bord de la route comme Yon, Martin et Eneco.
J'aime bien Seixas, il n'a que 19 ans. Il est très jeune, mais c'est le plus fort.
J'avais vu une vidéo de lui, mais là c'est une machine. Il a beaucoup de puissance, il va tous les manger. C'est énorme d'être si jeune et déjà réussir autant.
Je pense qu'il va gagner ce Tour du Pays Basque. Une performance à la portée des plus grands uniquement. J'espère qu'il atteindra le niveau de Pogacar pour lui livrer un mano
justement
à mano.
Ici, on est sur les terres de Fernandez Machin, le manager basque du AE Team Emirates et donc de Pogacar. Et même s'il n'avait pas besoin de ça pour s'intéresser à lui, lui, il salue à la fois la performance et la manière démontrée par Paul Sexas cette semaine.
Paul a un niveau impressionnant, on ne peut que le féliciter non seulement pour dominer de cette façon et à son âge l'une des courses les plus importantes du monde, mais aussi pour le caractère dont il a fait preuve en étant non conformiste, en attaquant avec le maillot de leader. Il n'y a que les coureurs avec beaucoup de caractère qui en sont capables.
Un contre-la-montre très puissant lundi, une deuxième étape écrasée en solitaire mardi, du temps gagné pour le général jeudi en descente et ce mano-à-mano hier avec Lipovitz, troisième du Tour de France l'an dernier. Paul Sexas se surprend lui-même.
Franchement, j'aurais peut-être pas imaginé ça. Il y a une ou deux semaines à l'entraînement, j'ai eu des petits moments de doute et puis c'est revenu. Ça roule à bloc toute la journée. Et forcément, pour moi, c'est un premier test. J'ai déjà des actes de progression pour la suite, même si c'est une troisième victoire, donc c'est magnifique quand même.
Et oui, il pense déjà au retour d'expérience de cette semaine sans stage en altitude au préalable, avec les obligations protocolaires du maillot jaune porté depuis lundi et qu'il faudra défendre une dernière journée sur 135 km aujourd'hui.
Merci Kevin. Effectivement, la dernière étape entre Goisper-Ansula et Bergara avec 6 difficultés reportées pour plus de 3000 mètres de dénivelé. Départ 14h07 au général, c'est que ça se compte 2 minutes 30 d'avance sur Lipovitz, son dauphin. Vous vivrez ça évidemment sur RMC parce que c'est un grand moment d'histoire et la première réaction aussi de Paul Sexas dans l'intégral sport avec Christophe tout à l'heure. S'il fait le tour, Sexas doit-il déjà viser un podium ? Énormément de messages sur WhatsApp, notamment Chris qui me dit bien sûr qu'il doit viser un podium et même deuxième. Jérôme,
même
tiens. Jérôme, alors toi tu as dit non. Pourquoi ?
J'ai dit non, pas qu'il ne peut pas viser le podium. Au contraire, physiquement, je pense qu'il a les capacités d'être sur le podium, mais en tout cas, il doit pas l'annoncer.
Ah, exactement.
Mais bien sûr, il ne doit pas l'annoncer parce que il y a déjà énormément d'attentes. Et s'il fait son premier Tour de France, il sera là principalement pour apprendre. Et il aura déjà une pression énorme. Mais finalement, pourquoi se mettre un objectif et pourquoi se rajouter de la pression? Que lui, il est dans la tête, que lui, il est dans les jambes.
Il est dans la tête,
pour,
oui.
Pour faire un podium, bien sûr. À part Pogacar, Vingegaard qui va passer par le Giro, on ne sait pas dans quel état il va être. Et si Paul va continuer de progresser entre le Tour du Pays Basque et le Tour, le podium, il l'a dans les jambes. Mais si tu l'annonces, t'imagines la pression pour ce gamin de 19 ans qui aura déjà énormément de pression. Donc oui, il a les jambes pour faire un podium. Maintenant, l'annoncer, non.
Mais moi, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il a le caractère pour l'annoncer.
Oui, mais pas sur ton premier tour.
Oui, mais
tour.
D'accord.
Ton premier
mais...
tour, tu dois, il doit y aller.
Mais il me fait penser à Hino. Il me fait penser à Hino. Mais Hino, il avait 22 ans. Il avait 3 ans de plus.
Il avait 3 ans de plus. Mais il était dans une autre époque.
Et puis il était cornaqué par Cyril.
À l'époque, il y avait le service militaire à effectuer avant de passer pro, etc.
Non, mais je veux dire.
Le développement des coureurs était, et des sportifs en général était beaucoup plus
important. Hino a affirmé avant l'heure toutes ses victoires.
Mais alors, attention, Paul, on écoute ses déclarations. Il se défile pas. C'est pas un problème. Il dit, moi, je voulais leur montrer que j'étais là, etc. C'est pas un problème. Il va assumer ses responsabilités, ses ambitions. Par contre, le premier tour, l'objectif numéro un, s'il y va cette année, c'est d'apprendre, c'est de découvrir. Et surtout, pas de découvrir 3 semaines de course, 21 étapes, on s'en fout de ça. C'est découvrir l'environnement du tour.
Comment tu gères
les médias,
le général,
comment tu dois partir tôt de l'hôtel pour arriver au départ.
Mais il n'a pas fait l'apprentissage avec le tour de Pays
Basque. Mais même pas ça. Le Pays Basque ou même la Vuelta, tu pars. T'arrives 20 minutes avant le départ, tu vas signer ta feuille, tu prends le départ. Le Tour de France, c'est pas ça.
Alors,
donc,
une
il aura
pour
le temps
toi.
Après d'arriver avec de l'ambition. Laissons-le, entre guillemets, bien tranquille sur ce premier tour et ça ne l'empêchera pas éventuellement de faire un podium.
Mais est-ce qu'il
est prêt?
Justement,
c'est ce qu'il faut.
Pourquoi rajouter ça?
C'est ce qu'il faut et moi, je suis exactement sur la même ligne que Jérôme. Je pense qu'il doit viser le podium, mais qu'il ne doit surtout pas le dire et surtout pas communiquer autour de ça parce que s'il communique autour de ça et qu'au bout de 15 jours dans la deuxième semaine il a un coup de moins bien, tout le monde va dire ah ben regardez, c'est français, ça veut être champion du monde, ça veut être le roi du Tour de France et ça se plante. Donc surtout tu fermes ta bouche,
mais
tu dis
non,
rien
alors, dit
et
oui.
T'essayes de gagner. Tu dis oui, dans sa tête, dans ses jambes, il doit le viser, mais surtout pas dans ses propos, autrement on sait comment ça va se terminer. La fenêtre médiatique, l'amplification médiatique du Tour de France est telle, c'est une épreuve complètement différente de celle des autres. Le Tour du Pays-Bas, c'est de la gnognotte pour lui. Le Tour, il va arriver, t'auras 200 caméras qui vont l'attendre à la descente du bus. Le soir, il va falloir attendre des heures quand tu fais les interviews. Donc, tu fais profil bas
bas, tu fais profil bas. Là. Ce sera pas profil bas de toute façon.
Il le fait pas. Il aime bien annoncer ce qu'il veut faire.
Ouais, parce qu'il fait partie de cette nouvelle génération. Les Wembanyama, les Arthur Fils, les Isaac Hadjar, ils sont tous pleins d'ambitieux. Ils les déclarent ces ambitieux. Mais là, tu rentres dans une course tellement particulière où t'es tellement attendu depuis tellement d'années que plus tu feras un profil bas, mieux ce sera pour lui.
Marc, tu écoutes tout ça avec intérêt depuis tout à l'heure. Sexas doit-il viser un podium s'il fait le tour? Déjà, tu as dit s'il fait le tour ou pas. Bah, tu te dis qu'il est, il existe un monde quand même, il ne fait pas le tour.
Je vous écoute et puis je lis les réseaux, les communications. Il y a un truc qu'on a tous oublié là.
Il n'a pas dit oui.
Il y a un truc qu'on oublie. Tout le monde dit, il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire le tour, ne rien annoncer, il doit pas faire ça, il devrait. Il y a juste un truc. C'est que c'est lui qui va décider ce qu'il va faire et comme il va le faire. Et ça, je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en considération.
Mais tu penses pas qu'il a décidé?
Non. C'est lui qui va, je suis pas sûr qu'il ait décidé encore.
Non, mais c'est la grande question.
Combien même? On est tous dans des supputations, des conseils, on essaie de se projeter avec lui. Non, oubliez tout. Oubliez tout. Moi, je l'ai croisé deux ou trois fois, le gamin. Et une chose que j'ai compris. Une chose.
Il fait ce
c'est
qu'il
que
veut.
Personne ne décidera pour lui. Ouais. Et personne ne va lui imposer quoi que ce soit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dans une situation de rêve. Il a un contrat qu'il n'a pas encore prolongé. Il est la nouvelle star qui arrive. Il écrase la concurrence.
Mais pour quelle raison il ne le ferait pas? C'est
attends,
ça le.
Il écrase la concurrence. Maintenant, c'est lui le taulier. Et c'est lui qui va décider ce qu'il va faire à l'intérieur de son équipe. C'est lui qui va décider ce qu'il va faire sur chaque course qu'il va faire. Le tampon au bas de la feuille, c'est lui et la signature qui va être mise en bas de la feuille. C'est lui et lui seul qui va la mettre, la signature. Et le cheminement et le comportement en course et le calendrier de course et les objectifs, c'est personne d'autre que lui qui va décider. Personne.
Mais ça dit quoi de lui, ça? Ça dit quoi de lui?
Lui, il sait, je pense que, enfin, à travers ce qu'on peut percevoir, il sait qu'il a un truc que les autres n'ont pas. Il a compris, hein, vous savez, maintenant, on a les datas, on sait. Tout le monde sait ce qu'il a. Tout le monde connaît les qualités physiologiques qu'il a, les qualités mentales qu'il a. Il a tous les atouts dans son jeu et c'est lui qui va décider. Et avec ses parents, sûrement, une toute petite cellule qui est autour de lui, en qui il a entière confiance. Et c'est lui qui va prendre les options et les choix. Il va les faire seul. Il a besoin de personne. Et nous, nos débats, on est là pour animer le truc, ou machin. Mais bon, moi, je vous dis tout de suite. Oui, mais on est en train de dire,
Marc,
s'en fout, hein.
Marc, on sait tous qu'il est prêt. Donne-moi une seule raison pour laquelle il ne ferait pas le tour cette année.
Pourquoi? Parce qu'il a, peut-être envie d'arriver sur le tour et de le gagner directement. Ça peut être une option. Peut-être qu'il a envie de passer par le Giro ou par la Vuelta pour emmagasiner les dernières données dont il a besoin par rapport à une course de 3 semaines. Je le vois bien arriver sur le. S'il vient sur le tour, il va même pas venir pour le podium. Il va venir pour gagner le tour. Si lui décide.
Jérôme, t'es d'accord? Jérôme, toi qui dans ta carrière, je rappelle, t'étais un coureur de course à étapes,
Paul Sexas. Hein.
Qu'on a monté très haut à un moment donné. T'avais fait 5e du Dauphiné avec toute l'attente qu'il y avait derrière toi. Hein, oui. Je veux dire, c'est pas neutre de décider d'aller sur un Tour de France, de gérer l'attente, de gérer tout ça.
Non,
c'est passé par là.
Oui, alors, je suis passé par là. Alors, moindre mesure, bien sûr. Voilà. Mais par contre, l'attente qu'on suscite sur des courses d'une semaine, type Pays Basque, type Dauphiné, etc., ça n'a rien à voir avec le Tour de France. Et le Tour de France n'a rien à voir non plus avec le Giro ou la Vuelta. Maintenant, il y a des coureurs, et c'est le cas de Paul, en tout cas pour le moment, la pression ne l'atteint pas du tout. Hein. J'ai pu discuter avec Thomas Vauclair, avec des proches de Sexas. Pour l'instant, vraiment, ça lui coule dessus. Donc tant mieux. Et c'est certainement la marque aussi des très grands. Je pense pas que Bernard Hinault était écrasé par la pression non plus. Donc ça, c'est la marque des très grands. Par contre, je suis d'accord avec Marc, c'est-à-dire son ambition, même s'il l'annonce pas, s'il va au Tour, c'est de faire peut-être le podium, voire mieux. Mais en face, t'as quand même Pogacar. On peut dire tout ce qu'on veut de Sexas. Pour l'instant, Pogacar,
il est quand même au-dessus.
Voilà, il est quand même au-dessus.
On l'a vu sur les strates de Yoga,
on va pas l'enterrer non plus, même s'il va faire son Giro, etc. Donc il faut regarder. Par contre, l'idée de faire la Vuelta, etc. Moi, je suis pas fan de cette idée-là, parce que la Vuelta, c'est pas le Tour non plus. Alors oui, tu vas prendre des datas sur 3 semaines, etc.
Pogacar avait commencé par ça, c'était son premier grand tour.
Ouais, d'accord. Mais Pogacar, enfin, leurs carrières sont pas tout à fait identiques. En tout cas, le début de leur carrière. Et après, le Tour d'Espagne cette année, j'entends les arguments qui sont complètement recevables, c'est-à-dire tu vas à la Vuelta, t'as moins de pression, t'es pas en France, il y a moins de concurrence, mais c'est encore pire. C'est-à-dire, s'il va au Tour d'Espagne, et ce qui peut arriver, qu'il prenne un coup de latte parce qu'il a jamais couru trois semaines, parce qu'il se fait piéger sur un coup de bordure, etc., on va dire ah bah l'élu que Marc Madio nous a annoncé.
C'est pas moi qui ai annoncé l'élu. Il faut pas s'enfermer là-dedans. Je n'ai pas annoncé l'élu. Je vais reprendre les propos.
Voilà.
Du plus grand journaliste du cyclisme, Christophe Cessieux.
Christophe Cessieux qui l'a annoncé comme l'élu. S'il va au Tour d'Espagne, on va dire ah bah voilà, il n'y avait pas Vingegaard, il n'y avait pas Pogacar, etc. Et il n'arrive pas à gagner le Tour d'Espagne, donc c'est pas le bon pour aller gagner le Tour.
C'est encore, mais ça, c'est le risque aussi.
Pour moi, il a plus à perdre d'aller à la Vuelta que d'aller au Tour. Au Tour, on va tout lui excuser, c'est son premier tour.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans sa tête en ce moment? Est-ce que lui, il se dirige vers le Tour de France ou non? Jérôme, tu es proche de lui, tu es proche de son entourage.
Tu as des infos,
des rumeurs qui reviennent. Marc, pareil. Est-ce que, à votre avis, il sera au départ du Tour dans quelques semaines? Est-ce qu'on en prend la direction ou est-ce qu'au contraire, on n'en prend pas la direction?
Moi, j'ai pas tous les paramètres, j'en sais absolument rien.
Tu sais pas.
Non, mais t'as pas un sentiment, un ressenti?
Non, parce que je pense qu'il y a un tas de données qu'on n'a pas, et un tas de points qu'on n'a pas par rapport à sa prise de décision. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la décision, c'est lui qui la prendra.
Si juste précise son calendrier, il va faire la Flèche Wallonne dans deux semaines, et ensuite il affrontera Pogacar à Liège-Bastogne-Liège, évidemment. Donc
j'ai eu son service de presse hier. Alors après, ils te disent ce qu'ils veulent, et ils me disent la décision n'est pas prise. On prendra la décision en fonction des données qui seront étudiées justement sur le tour du Pays Basque.
La décision n'est pas prise.
Et les Ardennaises, parce qu'ils disent, ils me disent que l'année dernière, après le Dauphiné, il avait quand même des données assez basses, et savoir comment il va récupérer
C'était une première saison l'année dernière, qui n'était même pas complète.
Ils attendent peut-être de voir encore. Après, je pense que si Paul leur dit, moi j'ai envie de faire le tour.
Denis, parce que moi, Denis représente le grand public aujourd'hui, et ça me semble important de l'entendre avant d'avoir Cliff au 32-7. Non mais Denis, toi tu as envie de le voir.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est-à-dire que là, tu prends l'histoire.
Ça fait 40 ans que je rêve qu'un Français gagne le tour.
Denis, Vincent Moscato disait cette semaine dans le Super Moscato Show, en 20 ans de Moscato, c'est la première fois qu'on parle du Tour du Pays Basque en première fois.
Oui, c'est vrai, c'est incroyable.
Non, mais attends, s'il fait le tour, les médias, tout est
écrit. Le problème d'aujourd'hui, c'est que il y a, comme le disait Christophe, il y a une amplification de tout aujourd'hui autour de ce coureur-là. Ça veut dire qu'on n'est presque pas objectif. Le grand public, je parle. C'est-à-dire qu'on se dit, mais bon, c'est pour gagner.
On est dans l'émotion.
Et on n'est pas peut-être dans le réel, quoi.
On n'est pas habitué. Enfin, il a trois étapes dans la semaine.
Oui, mais on ne sait pas, en fait.
Alors qu'on oublie de dire aussi, par exemple, je redonne des données, ses concurrents autour du Pays Basque aussi ont abandonné en cours de compétition.
Mais
ce que je veux dire, c'est que dans l'appréciation du classement général final, il faut l'avoir en tête. Aussi.
Enfin, il bat Lipovic, troisième du dernier Tour de France.
Tout à fait. Mais il faut le dire.
Mais moi, je trouve même pas qu'on s'enflamme trop. Je veux dire, quel coureur français a fait récemment a autant dominé une course World Tour, a gagné en chrono, sort en descente. Pour l'instant, on n'a pas vu de point faible.
Christophe avait tout vu.
On n'a pas vu de point faible pour l'instant. Il descend très bien, il se place très bien, il grimpe très bien, il roule très bien. Il n'a pas de lacune. Peut-être, on n'en a encore même pas vu. Peut-être une pointe de vitesse plus basse sur les montées un peu courtes.
Les montées un peu diesel sur les montées.
Toutes les montées.
Un élément déterminant qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il est dans la période la plus faste pour lui dans toutes les prises de décision. Ouais. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il ne sera plus dans cette situation.
Ouais.
Là, il est dans une situation idyllique. Ouais. Moi, je suis son conseil, je suis son agent ou je suis ses parents. On préserve ça. À la limite, il faut garder ça le plus longtemps possible.
Ouais. Tiens, Cliff, au 32-16.
Aller plus haut dans beaucoup de domaines.
Nous appelle de Carcassonne. Salut Cliff,
bienvenue dans le sport. Bonjour tout le monde. Salut. Comment allez-vous?
Bon, très bien, évidemment, comme ce qu'on vit en ce moment avec Paul Sexas et pour le cyclisme. Et d'ailleurs, tout le cyclisme français performe en ce moment, parce que l'on parle de Paul Sexas, mais.
T'as le plus grand journaliste.
Il y en a le plus grand journaliste de cyclisme de l'histoire. Je vais y aller. De l'histoire. Cliff, est-ce que Sexas, s'il fait le tour, doit viser un podium? T'en penses quoi, toi?
Pour moi, vous en faites trop sur lui. Vous lui mettez la pression.
Ah ben non, justement, on veut pas lui mettre. C'est lui qui met la pression.
Je laisse parler Cliff.
Il faut d'abord qu'il s'éclate. Pour moi, il est trop jeune encore pour faire un podium. Pour moi. Donc d'abord qu'il s'éclate, comme il a fait au début à la Philippe, même s'il n'a pas fait de podium. il s'éclate dans les étapes, il se montre, et après l'année prochaine, quand il prendra plus de maturité, il pourra penser à faire quelque chose d'intéressant.
Non mais en fait, vous savez ce qu'il... Alors, Cliff, je pense que ce que tu dis correspond à beaucoup de messages qu'on a aussi sur WhatsApp, sur arrêtez de vous enflammer. En fait, ça correspond juste à une crainte de casser quelque chose qu'on a tellement attendu, en fait.
Oui,
on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, nous tous, hein. Public, médias, consultants. Bah, Jérôme, tu sais, dès que t'as dit quelque chose sur Sexa, sur le réseau, t'en prends plein la tête, parce qu'on te dit, tu t'enflammes trop, il faut le protéger. Non mais Jérôme, Christophe, dans la couverture même de l'Intégral Tour cet été, s'il est là.
Mais ça c'est tout, là,
non, mais ça pose une vraie question sur comment traiter le phénomène. L'euphorie.
Je te dis, s'il va sur le tour, il y aura une rubrique spéciale sur lui dans le journal L'Équipe. RMC fera une spéciale tous les jours sur RMC, sur Paul Sexas. Et ce sera la même chose dans un tas de médias.
Il a été question de lui cette semaine, on en parlait dans la matinale de TF1, dans la matinale de France Télévisions, des médias plus mainstream, grand public.
Il a été question de Paul Sexas. Dans le New York Times. Hein.
Mais non, dans le New York Times aussi.
Il est partout, Paul Sexas. Tout le monde. Mais bien sûr, on n'a pas vu un phénomène comme lui aussi précoce. On a Pogacar, mais à 19 ans, Paul Sexas est bien en avance sur Pogacar.
Il faut relativiser un tout petit peu, parce que Pogacar, c'est déjà une ancienne génération par rapport à Sexas. Il y a deux ans de maturité plus rapide chez un coureur.
Et Pogacar, il le craint, Pogacar, aujourd'hui.
Pogacar, il voit ça, d'un très bon œil. Ouais. Parce qu'il a un copain en plus qui va jouer avec lui et qui pense comme lui et qui court comme lui. Qui n'a pas peur. Hein. Sexas, maillot jaune sur le dos au Pays Basque, il attaque dans la descente, il n'a pas besoin de le faire finalement.
Et je pense qu'il rêve de lui mettre une petite tarte sur Liège-Bastogne.
Il a montré au Stradé Bianchi, il a quand même montré qu'il était plus fort.
Là, ce week-end, on a Roubaix, la semaine dernière, on avait les Flandres. Et dans 15 jours, on aura Liège.
Mais non, mais on vient à un moment, c'est l'extase absolue.
Faut-il s'attendre à ce que c'est que ça se mette en difficulté Pogacar sur le Bastogne-Liège ?
Difficulté, je ne sais pas. Mais je pense que ça va être sympa parce que il y a un moment, ils vont se retrouver en face à face. Jérôme, quand tu es à l'entraînement, quand tu arrives dans une équipe, il y a ce qu'on appelle le quart de roue.
Si tu l'avais.
Frédéric Guédon adorait faire ça d'ailleurs,
Quand tu es néo pro, quand tu arrives, et le quart de roue. Alors le quart de roue, ça c'est quand tu es dans ton équipe par rapport à tes coéquipiers. Tu veux faire mal.
Le petit écart.
Le petit quart de roue d'avance. Toi tu accélères pour te mettre au même niveau et l'autre. À côté de toi, fais semblant de rien, mais accélère et remets le quart de roue.
Ça va être une lutte d'égo.
Et là, le quart de roue. Toi, on va se retrouver dans la redoute.
La grande difficulté de les joueurs de Liège.
On va avoir leur boy qui vont les placer au pied. Et on va attaquer la redoute. Et dans la redoute, il y a forcément un moment où...
Le quart de roue.
Ils vont être côte à côte, sauf que ça ne va pas être à l'entraînement, que ça va être en course. Et il va y avoir le quart de roue.
Et là, il y a le match.
Le gamin va vouloir aller voir, titiller ce qui se passe avec Pogacar. Et Pogacar, pour peu qu'il gagne demain Roubaix, c'est le dieu des dieux, le maître absolu. Et 15 jours après, il va se retrouver dans la redoute avec un mec qui va venir lui chatouiller les orteils. Non mais attendez, attendez. Ah, ça va être bon.
On est déjà dans Liège-Bastogne.
Moi, j'étais dans la redoute. Là.
J'étais
demi-roue derrière. Mais...
Allez, les amis, résultat du sondage. S'il fait le tour, Sexas doit-il viser un podium? Vous dites oui à 62%. Un petit point en plus. Bon, on a compris que Jérôme, dans ton nom, de toute façon, il y avait surtout dans la communication et dans le fait de l'annoncer pour peut-être pas enflammer tout le public. Il est à la une du seul quotidien sportif de France ce matin et il a déjà été beaucoup depuis le début de la saison. Ça vous montre aussi sa présence aussi dans les grandes gueules du sport. Les amis, on va parler de Paris-Roubaix tout à l'heure, évidemment, hein, en fin d'émission. Il sera question de quart de roue et de pavé. J'en ai aucun doute. Mais d'abord, on va parler de Biel-Biarré face à Dupont. Demain, UBB, Stade Toulousain. On en parle dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madiot, Jérôme Coppel, Christophe Cessieux, Denis Charvet. Tiens, j'ai plein de messages de Leroy Charlie, notamment sur WhatsApp, qui me dit si Cyril Guimard est le druide, Marc Madiot est le poète du vélo. Et Jérôme Coppel, Christophe Cessieux, Astérix et Obélix. Je vous laisse décider qui est qui. Et j'ai un message de Fred Weiss également qui me dit
J'entends une comparaison avec Victor Wembanyama, avec Paul Sexas. J'ai changé. Voilà, évidemment, je souffre en vous écoutant, il me dit. On va continuer d'en parler, évidemment. On a des super champions, on vit un âge d'or du sport français en général, peut-être, dans un instant. Le j'y crois pas. Bah tiens, on va parler de Pauline Ferrand-Prévot, notamment de rugby féminin. Mais d'abord, retrouvailles entre les meilleurs ennemis du rugby français actuellement, en quart de finale de Champions Cup, demain 16h. UBB, Stade Toulousain, avec les deux mégastars du rugby tricolore face à face. Antoine Dupont versus Louis Bielle-Biarré. Qui est meilleur ?
Qui est meilleur, qui est meilleur pour UE?
Encore une masterclass de la part de Bielle-Biarré. Donnez-lui des miettes, il en fait un festin. C'est pas possible. Louis Bielle-Biarré, le festival l'index en l'air vers la tribune du Stade de France.
Qui est meilleur? Qui est meilleur?
Et c'est d'Antoine Dupont. Il marque son retour, il est de retour. Ernest Vallon est debout. Le Messi, Antoine Dupont est de retour.
Capozzo qui revient à l'intérieur, pour qui? Pour Antoine Dupont. Super Dupont est revenu sur la pelouse. Et Super Dupont a remis la machine en avant. Dupont enfin là pour affronter l'UBB dans un grand match. On n'a pas vu ça depuis 2024 à cause de ses blessures. Le capitaine du 15 de France va retrouver face à lui la nouvelle coqueluche du public. Bielle-Biarré, 22 ans, l'ailier aux 29 essais en 27 sélections avec les Bleus, meilleur joueur du tournoi qui électrise les foules avec ses réalisations week-end après week-end. Les GG, je vous pose la question. Bielle-Biarré peut-il dépasser Dupont, Christophe Cessieux?
Oui.
Denis Charvet?
Pas encore.
Jérôme?
Pas encore.
Marc Madiot?
Moi, je me range à la vie de Denis.
Alors, on vous attend au 32-16. WhatsApp 0612-424-424. On est passé de l'after tour à l'after rugby.
Oui.
Denis, Christophe, il est partout, de
façon. Entre les poteaux.
Ah, voilà.
Bah, il vient commenter.
Denis,
bien sûr.
Il est le numéro 1 du rugby aussi.
Oui,
hein.
Numéro 1 du rugby.
Non.
Du foot, un peu moins.
Il a été mal formé à Nice.
On peut arrêter ces échanges.
J'aurais dû aller à Laval.
On peut arrêter ces échanges d'amabilité. C'est pas du tout le style de l'émission.
Denis, j'aime bien les gens.
Bielle-Biarré, petit. Dépasser Dupont?
Non, pas encore, parce que le problème, c'est que Dupont, aujourd'hui, il est connu, c'est la star du rugby mondial. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu les JO, en fait. C'est les JO qui ont transformé sa notoriété totalement. Et avant, c'était un joueur reconnu dans le monde du rugby. Tout d'un coup, il est devenu reconnu dans le monde tout court.
Il fait les enfoirés aussi en France.
Non, mais tout, les enfoirés, tout, partout. Oui, non, mais il est médiatiquement partout. En plus, il sort avec une Miss Univers magnifique qui encourage, enfin,
qui contribue à la notoriété.
Aujourd'hui, Antoine, oui, c'est monstrueux comme il est populaire, très très populaire.
Tu penses que Bielle-Biarré, c'est trop difficile là?
Mais c'est à dire en plus, Antoine, il a une histoire avec le terroir. Il vient du Gers. Il a une vraie histoire. Il est authentique. Il est resté, donc il y a quand même cette image là qu'il entretient. Et qui plaît énormément aux gens.
C'est-à-dire quoi? Il y a tout un narratif autour de lui, un récit.
Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, oui.
Christophe,
oui.
T'es pas tout à fait d'accord?
Non, ce sont deux garçons différents, déjà d'une génération différente. Aussi, hein. Effectivement, Dupont est plus dans la tradition des joueurs de rugby français,
ouais,
issus du terroir, attaché à la terre, attaché au Stade Toulousain. L'autre, c'est plus une rockstar. L'autre, c'est une météorite.
C'est un ovni, on va dire.
C'est une météorite qui arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de et qui casse tout sur son passage. Et c'est un garçon qui suscite vachement l'intérêt des jeunes, de la jeune génération.
C'est spectaculaire.
Son casque rouge, il se ferait des passages dans toutes les défenses, il marque des essais incroyables.
Il est un créateur de highlights, comme on dit maintenant.
Exactement, dans tous les résumés. Et aujourd'hui, on sait que les jeunes ne regardent plus vraiment les matchs en entier, mais des résumés ou les plus belles actions. Alors, tu as souvent
Dupont,
là, ces derniers temps, depuis deux ans, on rappelle quand même que Louis a été désigné meilleur joueur du tournoi l'année dernière, et cette année encore.
Il n'était pas le meilleur joueur du monde aussi, lui, Bielle-Biarré.
Exactement, il était dans la shortlist. Antoine n'a pas été désigné et il a un peu raté son tournoi, en tous les cas, sa fin de tournoi en 2026. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un créneau pour Louis Bielle-Biarré de rentrer. D'autant que, moi, j'adore Antoine, j'adore ce formidable joueur, c'est un phénomène, un magicien, mais
Je trouve que ces interviews ne donnent pas assez. Elles sont très convenues. Il est très froid. Il ne se livre pas complètement. Ah,
Zidane, Christophe.
Ouais. Oui. Il y a d'autres exemples.
Mais ça, c'est
là où je suis pas d'accord. Non. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que il incarne quelque chose, Antoine, comme Zidane incarnait.
Oui, mais un joueur de rugby, Denis, c'est un mec comme toi. C'est un mec à qui on a envie d'aller serrer la main dans la rue, à qui on a envie de taper la main dans le dos et de boire une bière avec lui. Et ben Antoine, moi il m'impressionne, j'ai pas envie d'aller boire une bière avec lui parce que
non quand même
moi j'y vais,
non mais
ouais, bien sûr, s'il la paye.
Ça c'est ton côté journaliste, Christophe, qui parle, parce que peut-être si tu le vois en dehors d'une conférence de presse après un match, t'as envie d'aller boire un coup avec lui, parce que t'as ce qui dégage en interview. Parce qu'il a peut-être pas envie de grandir, etc. Il aime pas, il se protège. Par contre, ça veut pas dire qu'à côté, c'est pas un super mec. Mais oui, on aimerait tout avoir. Et c'est la même chose entre Pogacar et Vingegaard. Je veux dire, Pogacar, il te donne 2-3 trucs, Vingegaard, il te donne rien en interview, par exemple. Mais je préfère Antoine Dupont parce que moi, j'aime les créateurs.
C'est l'équivalent de Zidane, et Bielbiaré, c'est l'équivalent de Mbappé.
Ouais, c'est comme en foot US. T'as le quarterback et t'as le receveur.
Raison,
les highlights, c'est le receveur qui va te faire un touchdown incroyable, mais si le quarterback ne fait pas une bonne passe.
Bielbiaré, il fabrique tout seul les essais. C'est pas un ailier de bout de ligne qui récupère le ballon.
Jérôme, on a fait. Tu vois l'image que je veux donner. Et t'as le chef d'orchestre et t'as le soliste finalement. Et moi, j'aime les créateurs. J'aime ceux qui crée du jeu, c'est lui qui va donner le tempo, Antoine Dupont, et ça, parce que peut-être de la vieille génération, je regarde les matchs et pas les highlights, tu vois.
Mais toi, Jérôme, avec Bielbiaré, c'est-à-dire qu'on a un phénomène qui fait des choses que personne ne fait. C'est-à-dire qu'on a, on a une vision de quelque chose qui est nouveau, qui est frais, mais qui est totalement irrationnel dans ce monde-là, en fait. C'est-à-dire qu'il fait des choses que je sais pas comment il y réalise, à la vitesse où il les réalise. C'est-à-dire que on se rend pas compte. Le rugby, il faut aller vite, mais c'est le timing. Lui, il a tout. Il a l'anticipation, il a la vision, il a l'intelligence.
T'as plus l'impression qu'il réinvente quelque chose plutôt que le Bielbiaré avec un joueur sur sa vitesse.
T'as pas un joueur qui lui ressemble, Alors, Dupont, tu vas me dire pareil, de la même façon, si tu les compares. Mais Bielbiaré, c'est, pour moi, en tant que joueur de rugby, pour avoir juste fait ce sport pendant des années, je suis bluffé par ce mec. Bluffé par le fait qu'il réinvente le rugby aujourd'hui.
Marc, on t'a pas entendu, juste toi, sur la sensibilité.
Dupont. Plus naturellement vers Dupont, parce que c'est la star, parce qu'il est connu, reconnu. Donc, il attire l'œil et on s'intéresse à ce qu'il fait. Après, je pense qu'il est encore quand même devant pour un petit moment.
Et ouais, alors regardez, Mariette, qui est fidèle auditrice des Grandes Gueules du Sport, me dit la popularité de Louis Bielbiaré dépassera celle d'Antoine Dupont, car lui fait partie de ce nouveau monde médiatique, de ce nouveau monde des réseaux, de ce nouveau monde des supporters
parce
de rugby.
Que Dupont, il n'est pas.
Vous êtes dépassés, les mecs. L'ancienne génération.
Mais non, mais
Mariette, qui est supportrice de l'UBB, le précise pas.
Mais Dupont, il est complètement intégré dans ce monde-là. Depuis toujours, Dupont, il a grandi avec les réseaux.
Mais il s'en sert moins.
Aujourd'hui, oui ou non, Denis Charvet, qui est le joueur le plus important de l'équipe du 15 de France? Louis Bielbiaré?
Dupont.
Antoine Dupont.
Thomas Ramos.
Dupont. D'ailleurs, j'ai dit oui ou non, alors c'était pas une question pour oui ou non.
Dupont, tu gagneras pas la Coupe du Monde sans Antoine Dupont au top.
J-1 avant UBB Stade Toulousain, on va en reparler évidemment demain. C'est le gros match à 16h. On a un énorme dimanche de sport sur RMC. Finale du Masters 1000 de Monte-Carlo à un mois et demi de Roland, Paris-Roubaix. Et donc ce match de rugby sensationnel. Allez, dans un instant, on revient pour le J-Crois pas. Il y a Toulon qui joue aujourd'hui à Glasgow, d'ailleurs, sur le quart de finale à 16h. On suivra ça sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, le vestiaire des grandes gueules du sport. On va parler de comment savoir se faire mal dans le sport de haut niveau. Peut-être avec des conseils pour ceux qui vont faire le marathon de Paris demain et Paris-Roubaix. Mais tout de suite, d'abord, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
On commence par du rugby. J'y crois pas. Le 15 de France féminin va remporter son premier tournoi destination depuis 2018. Denis.
Bien sûr qu'on y croit.
Christophe.
Je n'y crois pas.
Marc.
Denis reste mon maître.
Jérôme.
Oui.
France-Italie à 13h25 en ouverture. Les Bleus sont les plus à même de briser l'hégémonie de l'Angleterre, hein, qui n'a plus perdu le tournoi depuis 2018. Et le dernier grand chelem tricolore. Depuis, les Françaises ont enchaîné 17 revers contre les Red Roses. Le dernier demi-finale du mondial, mais on a un nouveau sélectionneur, François Ratier. On va vivre cette rencontre à Grenoble avec Pierre Thévenet et Lénaïque Corson. Salut Lénaïque, qui est avec nous. Ça va?
Salut tout le monde. Ça fait plaisir ce débat là qui part sur des oui. J'adore.
Il y a de l'enthousiasme. Pourquoi il faut y croire selon toi?
Il y a que moi qui dis non, Léna. Mais parce que moi, pour gagner, il faudrait que tu sois là.
Vous avez peur de moi, c'est sûr.
Pourquoi il faut croire? Il faut y croire, Lénaïque.
Bah moi j'y crois énormément cette année parce qu'on est tout simplement sur un nouveau cycle, un nouvel entraîneur qui amène une nouvelle vibe vague avec énormément de charisme. C'est un entraîneur qui a un pédigré en plus de vice-champion du monde en 2014 avec l'équipe du Canada où il était déjà dans le rugby féminin. Il est double champion de France avec le Stade Bordelais. C'est un homme d'abord, un entraîneur qui est énormément respecté, qui est énormément apprécié aussi par les filles. Et puis surtout, c'est pas un opportuniste parce qu'il connaît très bien le rugby féminin. Donc il connaît aussi la façon de manager des joueuses. Et c'est pas forcément la même chose que manager des hommes. Donc j'y crois beaucoup sur l'arrivée de Ratier et cette nouvelle énergie qu'il va donner dans l'équipe.
Oh là là, mais ouais, Lénaïque m'a complètement lancé là.
Bah non, mais ils ont encore plein d'autres arguments, non,
mais
évidemment.
Denis.
Alors moi, je connais bien François Ratier parce qu'il était à Montréal. Comme ma fille faisait ses études à Montréal, je l'ai croisé plusieurs fois. C'est un mec que j'adore. Ouais. Non, mais qui est formidable, qui a une vision du. Elle a raison quand il dit c'est un très grand entraîneur. On a la chance de l'avoir fait signer et qu'il amène son, vous voyez, sa fraîcheur, sa vision, qui va au-delà de la France. D'ailleurs, il a été quand même vice-champion du monde avec les Canadiens. Et surtout, il est, oui, je pense qu'il va amener un élan.
Ouais, mais l'Enaïque, ça veut dire battre les Anglais.
Ça veut dire battre les Anglaises. Ouais. Les Anglaises, effectivement, tu l'as dit. Alors moi, j'ai compté 15 crunchs perdus, 13 tournois destination gagnés, 12 grands chelems, 7 d'affilée, championnes du monde. Elles ont le dernier match qu'elles ont perdu, c'était la finale en 2021. Donc effectivement, elles ont un palmarès énorme. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est aussi sur une équipe de France qui voit arriver beaucoup de jeunes qui est extraordinaire.
Il y a 10 nouvelles joueuses.
Il y a 6 nouvelles joueuses aujourd'hui sur la fiche de match, sur la feuille de match. Donc ça fait énormément de joueuses, mais avec des joueuses qui déjà sont très performantes en élite une. Je pense à Pauline Barat le club de. Alors c'est une nouvelle, donc je vais encore lire mes fiches. Mais Pauline Barat qui est 15 au Stade Toulousain, qui a été formée à La Rochelle, qui a plus de 15 ans de rugby déjà, qui a commencé plus jeune. Anaïs Grandot qui fera aussi ses débuts aujourd'hui, qui s'entraîne au jeu au pied avec Jessie Trémoulière et qui m'a dit le plus grand bien de ces jeunes. Donc on a un mix entre ces jeunes joueuses qui arrivent avec beaucoup de technique, l'envie d'apprendre, envie de se battre pour le maillot, et puis toutes ces anciennes sur lesquelles on va encore compter. Je pense à Madou Soufal, je pense à Manaï Féléou, à Pauline Bourdon qui est encore là, à Gabrielle Vernier. Ça c'est un mix entre jeunes et plus expérimentés qui peut faire une alchimie énorme. Ouais. Et Pauline Bourdon, d'ailleurs, l'a dit. Ouais. Moi, ça me fait penser au tournoi destination en 2018, quand on gagne le Grand Chelem. Il y a une espèce d'alchimie dans l'équipe. Donc, si elle le ressent avec ses 71 sélections, ça peut aider, en tout cas, l'équipe de France à aller chercher l'exceptionnel pendant ce tournoi.
Et si avec ça, on s'enflamme pas, Lénaïque, France-Italie, 13h25, donc, pour le début de ce tournoi destination féminin avec Pierre Thévenet. Merci, Lénaïque. On vous retrouve évidemment toute l'après-midi aux commentaires. J'y crois pas, les GG. Pauline Ferrand-Prévot va faire le doublé sur Paris-Roubaix, Christophe.
Moi, j'y crois.
Marc ?
J'ai envie d'y croire, mais j'y crois pas.
Ah, ouais. Jérôme ?
J'allais dire la même réponse que Marc.
Denis ?
Moi, comme Marc est mon maître dans le vélo.
Insupportable. T'as vu, Chris, pourquoi tu y crois ? Elle a annoncé que cette semaine.
Elle a annoncé que cette semaine. Elle termine deuxième du Tour des Flandres de la semaine dernière. Elle est battue, bien battue par Vollering, mais Vollering
justement
n'est pas là aujourd'hui. N'est pas là demain, je veux dire. Derrière, il y a eu quand même pas mal de cas sur le Tour des Flandres. Après,
je sais pas dans quelle, puisque elle aussi, elle ne parle jamais, Pauline Ferrand-Prévot ne donne jamais d'interview, donc on ne sait pas dans quel état d'esprit elle vient sur Roubaix. Est-ce qu'elle est là pour se faire plaisir ou pour aller permettre la victoire de Marianne Vos qui a jamais gagné Paris-Roubaix? Ça peut être aussi une idée. On sait que l'un de ses objectifs, c'est Liège dans quelques semaines. Elle devait faire un stage en altitude cette semaine. Elle a préféré venir sur Paris-Roubaix.
Elle
comme on
ne sait
pas pourquoi elle est venue. C'est un peu difficile, mais moi, je la sens capable sur sa forme de gagner Roubaix.
Rapidement, quelques mots, Jérôme.
Non, mais si elle vient, c'est qu'elle a de l'ambition. Pauline, elle veut toujours gagner les courses. Maintenant, l'année dernière, elle venait aussi pour aider Marianne Vos, elle a gagné. Mais cette année, je pense vraiment qu'elle va se muer en équipière. Ouais.
Marc.
Ouais, je suis un peu sur cette ligne-là aussi. Je pense que ça va quand même être compliqué de faire le doublé.
Ouais, on va suivre ça évidemment demain, le Paris-Roubaix féminin qui arrivera après les garçons. On en parlera d'ailleurs demain dans les grandes gueules du sport. On suivra les deux courses. Évidemment, on revient dans un instant, les amis, avec le vestiaire. On va parler de comment savoir se faire mal. Et puis, sur le buzzer, on va parler de Paris-Roubaix. On va y aller sur les pavés. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.